Alors, on est de retour dans Dupont le matin. Bon jeudi, tout le monde. Merci d'avoir choisi le 93. J'espère simplement, parce que vous savez que je donne une garantie à tous les auditeurs de cette émission, une garantie, pas de contenu, mais une garantie de plaisir, tiens. Puis, sinon, vous êtes remboursé. Mais vu que ça coûte rien, tout se passe bien, c'est certain. Avant d'aller plus loin, Pierre Blais, à la circulation.
Oui, tu disais ça.
C'est fatiguant. C'est quoi le gars là? Non, mais je vois au 25226 là, qu'il y a un camion en panne, pont La Porte, direction nord, voie de droite.
Direction sud.
Direction sud.
Mais ça se ressemble, ces deux mots-là. Il n'y a pas le même
mot. C'est ça. Oui. Fait que, écrivez les plus gros, s'il vous plaît, quand vous écrivez. Quand vous textez au 25226, vous pouvez faire ça en majuscule.
En majuscule et caractère gras.
Ouais, mais regarde.
Hey,
là,
tu sais ce que ça va faire, Stéphane? Là?
Qu'est-ce que ça va
on
faire?
On va se faire texter en majuscule pour le reste mais de l'émission.
Regarde la grosseur des lettres sur mon téléphone.
Ben ouais, mais achète-toi un plus gros téléphone.
Ah. Des lunettes.
Ça s'ajuste, ça, hein, tu savais?
Oh, je l'ai mis au, il est ajusté au maximum. C'est, hein? c'est la première affaire que je fais.
Ah, ouais?
Oh oui, je vois pas de l'air. Je me suis opéré pour les yeux.
Non, mais c'est dommage pas petit, même s'il était ajusté.
Mais
tu sais,
gars, c'est assez gros, là. Il est au maximum de la grosseur, là.
Ouais.
Fait que, mais,
ça va avec les doigts,
ça. Je me suis fait opérer pour les yeux parce que je fais de la moto puis je joue au hockey. Je joue encore, là, mais moins, mais, j'étais tanné de porter des verres de contact. Fait que, mais on m'avait dit que ma vue de proche allait diminuer. Allait être affectée légèrement. À quel niveau, ils savaient pas trop. Puis d'ailleurs, tu signes un papier pour ça puis tout ça. Fait qu'elle était affectée peut-être plus que je pensais. Mais la différence, c'était que on réalise pas à quel, tu sais, moi, je dis, je lis pas. Moi, je lis pas, je sais pas lire, je lis pas. Fait que, mais à quel point on est sollicité de proches. Menu de restaurant. À ce temps avec nos téléphones. On est tout le temps sur nos téléphones. Que ce soit email, texto, tout ça. Fait que c'est tout petit. Tu conduis ton véhicule, juste voir les mettons, les tableaux d'affichage dans le véhicule.
Ouais. Non,
écoute, là, j'en ai parlé avec M. Tremblay de Scoop Vision. Là, parce que je veux me trouver. Là, j'ai donné des lunettes pour la vue, pour lire, mais j'en ai quoi, 14 paires, parce que je traîne jamais ça, j'oublie quelque part, m'assis dessus. Ça a de l'air que si je m'assis dessus, il casse, moi.
Arrête donc, toi.
Ah oui. Il y en a aucune qui résiste à 300 livres. Fait que, c'est ça.
Oh, je suis sûr qu'on pourrait te trouver une infopub à quelque part de lunettes incassables.
Ben oui.
Oui, oui, c'est
sûr. Je sais pas quand.
C'est sûr que ça arrive. Bon, à la météo aujourd'hui, ça s'est ennuagé, c'est dommage. C'était parti en feu ce matin à 6 heures. Il faisait c'est beau, terrible, mais ça va se dégager aujourd'hui parce que c'est du soleil, un maximum de 24. Demain, c'est du soleil mur à mur, garanti, encore une fois, où vous serez remboursé, maximum de 25. Puis ça regarde très bien pour samedi aussi. Alors, on va pouvoir en profiter, faire de la moto des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai un chum qui a ouvert un nouveau petit pub à Saint-Raymond. Ça se peut que j'aille faire un tour là en fin de semaine, samedi. Pub Saint-Alexis, tout rénové, en plein cœur du village à Saint-Raymond. Je vais vous en reparler plus tard, mais je vais probablement aller faire un tour là ce week-end. Maintenant, avant de passer aux nouvelles avec Pascal, on est jeudi. Qu'est-ce qu'on fait le jeudi?
Ah, les avis de décès.
Ouais, honnêtement, la liste est impressionnante ce matin dans les avis de décès, entre autres dans le Journal de Québec. Je sais pas, je les ai pas comptés, là, mais il doit être proche 80 décès qui sont annoncés dans les journaux d'aujourd'hui. J'ai juste remarqué deux, trois petites affaires que j'ai pris en note. Vous savez, il y a Dominique Jean ici. C'est une fille de Québec qui est décédée. Madame Dominique Jean. Elle demeurait à Québec. Elle était âgée seulement de 40 ans. Donc, dans les avis de décès d'aujourd'hui, je ne sais pas de quoi elle est décédée. Mais il y a une autre jeune femme. Ah oui, ici, Nathalie Tremblay. Née en 66, ça veut dire, parce que j'ai pas son âge en avis de décès. Ah oui, âgée de 53.
Ouais.
Elle était âgée de 53 ans. Elle laisse dans le deuil ses frères, c'est ça, donc une autre personne beaucoup trop jeune. Donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Il y a également Sophie Roy qui est décédée 18 juin 2020. Elle était âgée de 59, je crois. Alors, c'est ça. Puis, il y a quelques personnes. Il y a un monsieur de 99 ans. Moi, quand il y a des messieurs qui se rapprochent du sang ou qui pètent le sang, là, je trouve ça hot parce que, tu sais, l'espérance de vie grandit à vitesse incroyable. Je pense qu'elle a pris plus de 10 ans en 10 ans, l'espérance de vie. Si on regardait les statistiques, là, parce qu'on a toujours donné les espérances de vie, puis c'est sûr que l'espérance de vie mondiale, puis l'espérance de vie en Amérique, l'espérance de vie au Québec, je pense que c'est très, très différent. Moi, je vous donne l'exemple. Quand tu vois des fois des reportages sur l'Europe, écoute, la Russie encore pire. Là, vous allez penser à vodka, vous êtes capable d'en prendre d'autres aussi, mais ça fume. La cigarette est une des choses. Moi, il y a des parties du monde où je comprends pas. Tu sais, ici, là, ça fume plus beaucoup. Là. Je serais curieux de voir les vrais pourcentages. C'est sûr qu'on veut pas trop en parler. On veut continuer à faire peur, avec raison, à faire peur aux gens sur la cigarette. Mais hey, ça fume beaucoup moins. Moi, autour de moi, là, du monde, j'en vois pas souvent là, s'allumer une cloque, une top. Fait que...
Oui. L'espérance de vie en 1960 au Canada était à 71 ans.
OK.
En 1960, on est à 81 ans. Donc, on a pris... c'est ça, on a pris 10
ans. 40 ans. Ouais, mais là...
Mais bon, ça va vite, là.
Oui, ça va vite.
Hey, c'est vite en tabarouette, là.
Oui. Ça a tellement évolué. Ouais, là.
Mais ça va peut-être redescendre avec la sédentarité des jeunes.
Pis c'est pas juste par rapport à la santé aussi, ce qui est intéressant. Mais en même temps, ça va dans la santé aussi, là, mais il y a des études dernièrement qui sont sorties dans le monde. Les pays où il y a la plus haute espérance de vie, c'est les gens qui sont le moins stressés et qui sont le plus entourés.
Ça veut dire que je suis pas à veille de mourir? Hein?
Non,
c'est hey, mais c'est quand même 15 % d'augmentation sur à peu près une soixantaine d'années.
D'années.
Hein? Mais explosion des études scientifiques aussi, des médicaments, des
énormément de choses. Là. Mais je sais que c'était dans les nouvelles, là, les accidents sur la route, rien que des vacances de construction, ça a changé. Il y a quand même beaucoup d'améliorations. Les véhicules, tu sais, sur la route, je le dis souvent, là, moi, il y avait une statistique. Quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était 2000 morts par année, des accidents sur la route. Ouais. Puis aujourd'hui, on est en bas de 500 pas mal là, par année. Là. On est entre 300 et 400, je pense, dans les dernières années. Fait que c'est encore beaucoup, mais c'est rien à comparer d'il y a quelques années. Vez, t'as dit il y a quelques secondes, la sédentarité des jeunes t'inquiète.
Oui, mais il me semble avoir déjà lu ou entendu quelque chose qui disait que l'espérance de vie, à un moment donné, va peut-être baisser. Parce que les
quand
jeunes bougent moins, il y a trop d'écrans. Les jeunes sont dans les écrans. À part les pouces, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent sur le corps.
Oui, mais ils bougent quand même, je serais curieux. Nous autres, on bougeait aussi parce qu'on n'avait rien quand on était jeunes.
C'est ça, on allait jouer dehors. Là, ils vont jouer dans leur chambre.
Oui, ils jouent moins dehors, c'est vrai. Ils font du sport organisé. Comment, Pascal?
L'obésité qui augmente.
Ben, c'est ça,
ouais.
Ça vient avec.
Ouais, mais ça, l'obésité, la malbouffe. Moi, l'obésité, ça m'a toujours frappé. Là. Pas rien que moi, personnellement, je parle. tu sais, parce que je fais beaucoup de moto aux États-Unis. Puis c'était frappant. Puis je me souviens, les années là que j'ai travaillé avec Arthur, je me souviens, je lui parlais des petits villages où j'étais aux États-Unis. Là, puis on se parlait au téléphone de temps en temps. Et c'était frappant. Outre les centres-villes des grandes villes où il y avait vraiment des belles femmes puis du beau monde, aussitôt que j'arrivais dans un petit village, t'as juste des gros. Des groupes, des grosses. C'était juste ça. Moi, je t'amince à comparer à
l'autre. À côté d'eux autres. Puis tu allais là, ça t'intéressait.
Ah oui, moi, je t'amince là.
J'avais confiance.
Non, mais sérieusement, je disais, le prochain, puis il y avait des histoires de bactéries à l'époque. C'était déjà pas la pandémie du COVID, mais il y avait toutes sortes de virus de bactéries qui existaient. Puis je disais toujours que la prochaine bactérie qui va neutraliser l'humanité, c'est la graisse. Tellement, je trouvais que c'était frappant.
Ça va souvent avec le manque de moyens des gens aussi. Moins tu as d'argent, moins tu t'alimentes bien, parce que ça coûte cher bien s'alimenter.
La scolarisation joue un rôle aussi.
Ben moi, je trouve que l'éducation, là, puis c'est pas... Puis je n'ai aucun mérite dans ça. Je mange pas de légumes. OK? J'ai pas été élevé comme ça. Je mange pas de fruits. Je mange des petits fruits, là, quand il y en a.
Des jelly beans, genre?
Oui, c'est ça. Moi, je vais chez Bull Barn. C'est là que je prends mes fruits, moi. Non, mais, tu sais, mais je vois que mes fils, avec leur éducation à l'école, dans les programmes sport-études, ils les ont beaucoup aidés. Puis j'avais même rencontré les gars du sport-études hockey en leur disant, aidez-nous donc à nous autres, les parents de la vieille garde, les parents, écoute, c'est sûr qu'on a 25 ans d'écart avec nos enfants, là. Fait que, tu sais, mettons, nos gars sont en sport-études, ils leur donnaient des programmes d'alimentation. C'était correct, puis on était capable de respecter ça. Mais après ça, ils partaient. Tu sais, quand tu joues du haut niveau, tu pars, tu vas jouer à Montréal, deux games une journée, mettons, puis là, fallait le préparer des lunchs. Ça, on n'avait pas ça, un guide. Qu'est-ce que j'envoie dans sa boîte à lunch? Tu sais, je peux pas toujours y envoyer deux bars au Henry, là, tu sais. C'est pas bon, ça a de l'air, ça.
Non, avec un chip au vinaigre.
Mais c'est-tu bon un yogourt? C'est-tu bon un yop? Une compote, c'est rien que du sucre. Tu sais, honnêtement, comme parent, je le sais que je te nouille. Puis moi, je lis pas les étiquettes, puis je connais pas ça. Fait que je leur disais, si vous nous aidez un peu à comment concocter une boîte à lunch, parce que c'est pas comme parent, moi c'est une des tâches les plus difficiles, faire les lunchs des enfants, parce que c'est quoi, c'est combien de jours d'école, c'est
180
jours d'école, ouais. Quand il amène un lunch à tous les jours, puis qu'il y a certaines affaires qu'il aime moins, là puis en plus avec ce qui se passe, tu sais, pas tout le temps accès au micro-ondes, ou il aime pas ça,
puis il a pas le droit des noix parce que ça se peut qu'il y en ait qui soient allergiques dans la classe, ouais. Ou dans la cafétéria.
Hey, c'est tough faire des lunchs, maudit que c'est tough. C'est rendu tough. Quand tu trouves mettons une solution, tu sais, moi je me suis les gars me disaient à nous autres, envoie-moi rien là, toi t'envoyais un spaghette, non pas vrai, là. Steph, t'es pas fait à fil au micro-ondes le midi, là. Faut dîner dans 20 minutes, mais je pourrais pas aller jouer au hockey comme ça, fait que là, donc, ça tombait un sous-marin fait de telle façon. Ils ont mangé le même sous-marin pendant des midis de temps, là. Fait qu'on, je trouvais que je manquais d'imagination. Oh, à un moment donné, j'ai changé le pain sous-marin pour des croissants. Pas mieux.
Okay. C'est souvent ce que vous faites, les pères, hein?
Ben, les pères, on est des nouilles. Mais moi,
non, c'est pas des nouilles, c'est juste que vous changez le sandwich avec le pain.
Ben oui.
Mais l'intérieur reste. Moi, la moutarde au miel, plus capable. J'en suis plus capable. Mon père, c'était ça. Il rappait, puis pendant un bout, c'était pain caiser. Après ça, ça a changé croissant. Après ça, ça. Mais vous êtes cute dans votre façon de faire, ouais. Là. Mais...
Moi, là, je me souviens, le dimanche soir, j'écoutais, mettons, le football, là. Puis là, j'avais acheté une enveloppe de plastique de pita.
Oui.
C'est de 10-15 pita, je me souviens pas combien il y en a. Après ça, j'avais acheté une caisse de croissant. Puis un sac de 6 ou 12 sous-marins. Là, je trouverais tout ça. Hey, mon îlot, là.
C'est un Subway chez vous.
L'îlot est grande comme le comptoir ici. Là, je trouve tout ça, là. Mais je mets toute la même affaire. Là, je pars avec le bellonné, OK? Là, je mets une tranche de bellonné dans chaque affaire.
Prenez pour Henry Ford.
Comment?
Du montage à la chaîne de
sandwich. Oui, chaîne de montage de sandwich.
Ouais. Puis j'accélérais durant une pause parce que durant une game, j'écoutais la game en même temps, tu sais. Après ça, le jambon, puis après ça, le fromage.
Toute la même chose.
Fait que c'était toute la même affaire, le pain changeait.
Tu roules ça, puis tu mets ça au frigo, puis la semaine est faite.
Moi, je mettais ça au congélateur. Quand il sortait du congélateur, c'est ça a le temps de dégeler l'avant-midi, c'est frais du jour. C'est même si ça fait un mois
frais du jour. J'ai-tu le temps, moi, pour un avis de décès?
Bien sûr.
Quelqu'un qui est décédé dans les derniers jours, c'est un ancien prof que j'ai eu à l'université, Jean-Claude Picard, qui était un prof en journalisme, qui a été journaliste aussi à bien des endroits.
Non. Ah, c'est vrai, je suis pas à l'université.
Mais M. Picard, qui est décédé au cours des derniers jours, il y a bien du monde qui sont passés par l'Université Laval dans le programme en communication, entre autres, là, qui l'ont eu, puis qui ont été certainement marqués.
Il y avait quel âge?
J'ai malheureusement pas l'info.
Je viens de chercher pendant 15 minutes, Pierre, fait que c'est juste pas donné.
Ouais, c'est ça. Okay. T'sais, écoute, c'est relativement avancé. Là. Mm-hmm. C'est un homme qui avait un certain âge, mais tu sais, il est de l'époque, là, tu parlais de Patrice Moore tantôt. Monsieur Picard, il était de l'époque du genre, vous êtes journaliste, vous vous tenez aux faits, puis tu sais, c'est le vous débusquez des histoires, puis vous travaillez comme du monde, puis c'était vraiment, moi, j'ai adoré mon passage avec lui. J'ai fait le journal étudiant L'Exemplaire, c'était lui qui s'occupait de ça avec Geneviève Guilbeault, entre autres, il était ma collègue à ce moment-là.
OK, c'est cool. Alors, nos sympathies à toute la famille de Monsieur Picard. C'est ça, les avis de décès sont maintenant tous dans le journal. Tu sais, il y en a même de plus en plus, c'est Internet maintenant, puis les gens partagent. C'est pour ça que, tu sais, hier, j'entendais les amis avec qui on était en bateau, ils parlaient d'un gars de Montmagny, dénommé Fournier, qui avait un surnom, puis qui ont tous connu parce que il travaillait au restaurant Bel Air, puis il était très jeune, là, puis il est décédé dans les derniers jours, mais tu sais, ils ont vu passer ça sur Facebook, tu sais, la vie de décès publiée, puis là, c'est comme ça, tu sais, Facebook a cette belle qualité-là de rejoindre vraiment les gens proches, mais moi j'ai toujours, c'est pour ça que j'ai demandé en dehors des ondes tantôt à Vez s'il regardait les avis de décès, puis il dit non. Mais
non.
C'est parce que je pense qu'il y a bien des journées, mais je te dirais de regarder uniquement le jeudi, parce que sinon, il y en a à peu près pas, ils sont tous le jeudi, parce que les cérémonies, ça veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui sont peut-être décédés en différentes périodes, mais ça veut dire que les funérailles ont lieu en fin de semaine. Mais tu sais, probablement, est-ce qu'il y aurait à quelques reprises des parents de personnes avec qui t'as travaillé ou t'as côtoyé autant à l'école, ou souvent c'est ça, là, c'est des gens qui sont plus éloignés, qu'on voit moins, mais le père d'un tel est décédé, fait que tu sais, on est plus là que du monde nécessairement de notre âge, on est quand même toutes jeunes en début cinquantaine, fait que c'est pour ça, moi c'est Arthur qui m'a appris à checker les décès, puis je les regarde tout le temps. D'ailleurs, tantôt j'ai vu je vous n'ai pas parlé. J'ai vu un militaire, un jeune militaire qui est décédé, puis je sais pas de quoi, évidemment. On dit subitement, je pense que c'est peut-être un malaise cardiaque. À l'hôpital Laval est décédé Steve Ouellette, adjudant maître. Il était né en 72, 47 ans. Il est décédé subitement, ouais, à l'âge de 47 ans. Il demeurait à Québec.
Quand tu veux savoir de quoi il est mort, généralement, tu regardes à qui ils veulent qu'on fasse les dons. Ça donne un bon indice.
Oui, puis lui, c'est ça, ça dit de faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Ah. Par contre, maintenant, les gens, ils savent qu'en regardant à qui on donne les sous, ça nous donne un indice. Mais quand c'est des suicides, ça freine beaucoup de monde. Mm-hmm. Ils veulent pas trop publier de quelle façon la personne est décédée. Mm-hmm. Mais dans le cas de M. Ouellet, c'est pas ça du tout, là. Fait que, voilà. OK, là, il faut faire les nouvelles. Il est déjà 7h41. Voici vos actualités. Donc, on va suivre la formation du monsieur Picard de l'Université Laval. Spicy P aux nouvelles. Hey, buddy, qu'est-ce qui se passe?
Hey, buddy, attache qu'on part.
Vas-y.
Il y a une motocycliste dans la vingtaine qui repose dans un état critique. Elle a fait une embardée à Notre-Dame, auxiliatrice de Buckland. C'est dans Chaudière-Appalaches. Ça s'est passé hier soir, 19h45. C'est sur la route 216. Et ça bordait... Ben, c'est la municipalité qui borde le massif du Sud, là.
Oui, c'est ça. À Buckland, moi, je suis pas là assez souvent, là, chez Tiblet. Mm-hmm. C'est un de mes amis qui a le bar là-bas.
Puis elle a circulé avec un autre motocycliste et on ne sait pas pourquoi elle a perdu la maîtrise de son bolide. Elle a fait l'embarder seule. Là, c'est pas parce qu'il y avait un autre véhicule ou autre, mais elle a subi des blessures très sérieuses après sa chute. Elle a été transportée par ambulance à l'hôpital de l'Enfant Jésus. On craint pour sa vie actuellement.
Ah, très tragique. Une vingtaine d'années, tu dis?
Oui. Oui, oui. Il y a un homme dans la soixantaine de Sainte-Brigitte-de-Laval qui a été arrêté pour avoir proféré des menaces à l'endroit du premier ministre François Legault et du directeur national de la santé publique Horacio Arruda. C'est une plainte qui a été adressée à la Sûreté du Québec. Ça a été fait de façon anonyme. La personne dit craindre des représailles si jamais son nom sort. Il y a les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs qui ont procédé à l'arrestation de l'individu mardi. Il a été interrogé, il a été libéré sous promesse de comparaître, mais il va revenir en cour le 6 octobre prochain. Et c'est pas le même que celui de la semaine dernière. Je sais pas si tu avais suivi ça, Steph, mais il y avait un autre homme qui avait donné l'adresse personnelle d'Horacio Arruda sur le web et M. Arruda avait déposé une plainte aux policiers. Donc, c'est pas le même. On est vraiment dans deux cas différents.
Mais c'est de très bonnes nouvelles. Moi, là, plus il va y en avoir de ça. C'est drôle, hein? Il y a des gens qui me disaient récemment à quel point ils trouvaient les internautes méchants. Puis là, ça me concerne pas. Honnêtement, moi, ça me coule sur le dos comme sur un canard. Tu sais, j'ai pas de. Je lui ai pas. Un, je fais bien attention à la lecture que je vais en faire. Fait que c'est pour ça que ça m'atteint plus. Peut-être qu'il y en a trop eu, puis on devient désensibilisé à ça. Mais quand on a fait entre autres lundi l'annonce de l'arrivée de Jonathan Trudeau et Jérôme Landry qui vont animer l'émission, tu sais ce qui est particulier, qu'ils vont animer ici l'émission de 10h à 14h sur les ondes du 93. Bon, on annonce
ici,
ça.
Ici, oui, 93.
Hein?
Ici, oui, c'est le 93.
Oui, t'as pas sûr, j'ai vu le chiffre sur le mur. Fait que, on annonce ça, puis là, Jérôme met ça sur sa page, puis là, il y a des centaines de commentaires, yes sir, toutes sortes de... Tu sais, c'est positif. C'est la page Facebook à Jérôme Landry. Tu suivras pas la page Facebook de quelqu'un que t'haïs.
Quoique.
Mais moi, je m'amuse. Il y en a des fois, là. Moi, j'amuse. Banni, barré, bloqué.
Bye bye,
c'est réglé. Mais, tu sais, puis sur la page du 93, à cette annonce-là, il y a eu beaucoup de commentaires méchants. Mais tu sais, je comprends en même temps que les gens qui sont fans de cette page-là étaient aussi des gens qui appréciaient les équipes qui étaient ici auparavant. Puis là, écoute, l'entreprise décide de faire des changements. On n'est pas rentré ici avec des mitraillettes sortir le monde, nous autres, là. Tu sais, on a accepté leur offre d'emploi, en tout cas. Mais il y a un niveau de méchanceté, puis... Il y a des affaires tolérables et il y a l'inacceptable. Et à cause de la pandémie et dans toutes sortes de situations, il y a beaucoup, beaucoup d'inacceptables, de racisme. Et je comprends que si la police se disait « OK, on fait rien que checker Facebook », puis tout ce qui est inacceptable en société et qui mérite des accusations, je pense que les corps de police ne feraient que ça, tellement il y en a beaucoup.
Ouais.
Mais au moins, on commence à agir. Puis, il y a une des causes qui est arrivée durant que j'étais en vacances. Tu sais, la fille de TVA là, qui s'est faite coller par deux gars. Là.
Oui, Karianne Bourassa.
Ouais. Tu sais, je trouve ça poche un peu que les deux gars aient été accusés là-dedans, mais je comprends la situation. J'ai surtout trouvé ça poche parce que j'ai vu une vidéo où un des deux gars a défendu la fille contre des gens plus agressifs. Mais dans toute cette histoire-là, c'est qu'il y a un cave de très loin, là, plus la région de Montréal, qui a menacé cette journaliste-là. Ouais. Et lui a été arrêté rapidement.
C'était violent, là, les menaces qu'il faisait.
Je ne sais pas.
C'était presque des menaces de mort de mémoire.
OK, mais et on a agi rapidement en sachant que ce gars-là était loin, mais on n'a rien pris à la légère et on l'a arrêté. Et je pense que ce frein-là de la police et des tribunaux va être la meilleure façon de nettoyer un peu tout ce qui peut être fait derrière un clavier. Donc,
on espère, parce que là, la tension est palpable. Tu le vois, puis tu le dis, il y a une recrudescence depuis la pandémie. On dirait que les gens, je sais pas, il y a soupape qui saute, là.
C'est ça.
Puis hier, j'en parlais avec l'équipe du retour. Je regarde ça, puis je me dis, mon Dieu, parfois, là, ça ferait tellement du bien que ces réseaux sociaux-là ferment pendant un petit bout pour que le monde se ressente, se calme, réalise qu'on est en train de s'attaquer personnellement à des gens, que ce soit physiquement ou encore sur l'identité de la personne.
C'est ça. Ouais. Et là-dessus, d'agir rapidement. Puis en même temps aussi, en rendant tous ceux qui diffusent du contenu sur ces choses-là à être responsable de ce qu'ils diffusent. Mmh. Moi, j'ai eu de nombreuses discussions parce que je voulais vraiment qu'on s'entende, entre autres avec les gens de Québécois et du Journal de Québec. Ils avaient attribué quelqu'un qui était responsable du contenu web du journal. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On a essayé de parler. Puis là, j'y démontrais à chaque jour quand, entre autres, il y avait des textes sur la radio. À l'époque où il y avait le droit d'écrire sur la radio, mais depuis qu'ils ont Cube Radio, c'est l'interdiction de parler de la radio de Québec dans le Journal de Québec. Alors, vous voyez que c'est un média qui est biaisé totalement. Et l'autre affaire, c'est qu'il y avait des propos qui étaient plus qu'inadmissibles. C'était offensant, c'était quasiment criminel. Mais le journal laissait faire ça. Et leur défense, à chaque fois que je l'appelais, je disais, hey, ce commentaire-là, c'est quoi ça? Ah oui, mais le Journal de Québec engage des modérateurs, donc des gens qui vont nettoyer ce qui ne doit pas être publié sur leur site. Savez-vous, il était où le modérateur? Il était en France. Fait qu'il est pas sur le même fuseau horaire qu'ici. Oh. Fait qu'il y a toujours un délai de 7 à 8 heures avant que le nettoyage soit fait. Je dis, hey, ça va bien.
Ça va être des jobs qu'on va voir de plus en plus.
Probablement.
Ça, oui. Puis des unités, comme tu disais, policières qui vont se concentrer que là-dessus.
Oui, puis Radio-Canada, qui est pourtant une grosse boîte, c'est pas bien mieux, là. Quand ils publient une nouvelle qui fait que les gens sont pas au compte, là, de gauche-droite ou différentes choses, il y a des propos de gens qui sont inacceptables et que pourtant, cette boîte-là laisse passer.
Mais des fois, ça va vite, t'es d'accord avec ça. Là.
C'est sûr.
Tu sais, mettons, Gérard en beau maudit dans son sous-sol, là, que les deux enfants sont en train de souper en haut, qui décide qu'il va écrire un commentaire haineux puis violent. Ouais. Ça se peut que tu le vois pas immédiatement.
C'est ça. À ce moment-là, tu peux les bloquer, les commentaires. T'as juste à dire, hey, on n'acceptera pas que les gens commentent les nouvelles que l'on publie.
Cet article-là,
notre job, c'est publier de l'information. C'est pas une ligne ouverte par écrit de commentaires de gens. Parce que c'est drôle à la radio. Nous, les lignes ouvertes, j'en fais pas, là, mais on est responsable. Si vous dites une grossièreté pendant que vous êtes au téléphone dans mon émission, je dois démontrer que je vous ai pas vu venir puis que j'ai corrigé ce que vous avez dit puis que j'ai coupé la ligne. Sinon, je t'accuse autant que vous. Pourquoi que sur Internet, c'est pas le même principe? Mais c'est toujours été mon questionnement puis encore en date d'aujourd'hui, j'ai pas eu de réponse. Ensuite.
Hier, on a parlé du tramway, encore une fois, avec le BAP, la ville de Québec, qui s'est comparée aux villes de Sapporo et de Niigata au Japon, de même qu'à Toronto. En fait, c'est les trois villes qu'on a ciblées pour répondre à la question du BAP. On demandait, justement, au bureau de projet d'identifier des villes qui ressemblent à Québec en termes de précipitation de neige qui tombe, de vent, etc., des conditions hivernales. Et on n'avait pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Là, on
Toronto, tu trouves que ça ressemble pas du tout à Québec?
Pas beaucoup.
Ben écoute.
Ah, puis, moi, j'ai vécu à Toronto, je savais ici. Tu savais-tu, Vince, j'ai travaillé chez Sears à Toronto?
Tu sais? Oui. Moi, j'ai travaillé chez Sears à Place Laurier, moi.
Ah ouais, OK. Donc, les colis, là, quand
on bon. Partait pas, ça dérape de Sears.
Non, mais aussitôt qu'il y avait un peu de neige qui s'accumulait à Toronto, là, c'était le chaos. Il y avait des tramways, puis les rues, comme où je restais, là, High Park, c'était pas des tramways, c'était des bus électriques. Fait que c'était des bus, mais il fallait qu'ils restent dans sa track.
Ouais.
Mais des fois, le bus, là, il y avait un char en panne ou il y avait un banc de neige, il essayait de dévier. Puis s'il se déploguait en haut, parce que c'était juste du frottement, la bus tombait en panne. Fait qu'il fallait que les gens la poussent pour la ramener en dessous du fil électrique.
Comme les écolobus ici, les touristes qui poussaient.
C'était épouvantable, c'est épouvantable. En tout cas, on a comparé avec Toronto.
C'est ça, Toronto, Sapporo, Niigata, deux villes du Japon et Toronto. Mais en fait, c'est une réponse au BAP parce que le bureau de projet identifiait d'autres villes avant et on les a écartées. Il parlait de Helsinki en Finlande.
Helsinki, c'est pas une ville, c'est un personnage dans la Casa de Papel.
Non, Helsinki en Florence, en Finlande et Stockholm en Suède. Et on a diffusé ces deux films-là. On les a cités dans une publicité en février dernier. On disait, mon Dieu, ça ressemble ici au Québec. Ils ont des tramways, ça fonctionne. Et là, quand on a répondu au BAP, on a écarté ces deux villes-là. On s'est concentré sur celles que je vous ai énumérées. Mais faut savoir que dans ces trois villes-là qu'on a pris à terme de comparatif, là, les températures sont plus clémentes. Il y a une forte proportion aussi de précipitations qui doivent être ramassées, qui sont pas les mêmes, là. Il y a aussi 25 kilomètres de tramway que comptait Sapporo dans les années 50. Sur toute la longueur de ce tramway-là, de la ligne, là, il y en reste plus que 9 aujourd'hui. Fait que c'est un drôle de comparatif. Et il y a le tramway de Québec qui circule en site propre sur une plateforme surélevée. Mais à Sapporo, la ville où on se compare encore, ben, ça se mêle à la circulation automobile. Fait qu'on essaie d'avoir des comparatifs, mais on n'y arrive pas trop, selon certains observateurs. Et l'autre affaire, c'est que nous, on a du verglas, on a du gel, du dégel pendant l'hiver. Et on doit répondre aux questions, est-ce qu'il y aura des solutions techniques pour réussir à faire circuler le tramway? Bien, le bureau de projet s'en remet au consortium. C'est une réponse qui laisse sous-entendre que la ville va se décharger de toute responsabilité si les solutions retenues sont pas efficaces.
Alors, OK. Moi, la seule affaire que j'ai à dire là-dessus, c'est très simple. Là. Puis en même temps, je connais rien dedans. Mais en aucun temps, dans tout ça, là, dans tous les débats qu'il y a là, on a nommé Ottawa. Et à Ottawa, c'est très récent là, qu'ils ont installé un système de transport en commun sur rail, un tramway dans des voies évidemment réservées. Là. Et ça fonctionne pas bien. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Je me souviens pas, TV avait fait des reportages là-dessus. Là. Mmh. Il y avait beaucoup de problèmes de toutes sortes. C'est récent, c'est moderne, puis c'est pas rien que la météo. Là. Il y a toutes sortes de problèmes qui font que c'est très peu achalandé. C'est un système de transport finalement qui fonctionne pas. Mais c'est drôle, si on le cite pas, on va pas voir parce que ce serait pas favorable au projet qu'on est en train de mettre en place. Mm. C'est ça qui est bizarre et qui est pas génial.
Il y avait Dominique Anglade aussi, la nouvelle chef du Parti libéral de Québec, qui avait quelque chose à dire là-dessus. Et elle, ce qu'elle dit, c'est, enfin, elle accuse le gouvernement Legault de manquer de leadership pour assurer la réussite du projet de tramway. Elle aimerait qu'il y ait plus de questions qui soient posées puis des positions claires qui soient énumérées dans
ce. Mais elle Bonardel, là, d'habitude, il se occupe de ces affaires-là puis il porte pas la bombe dans son cœur. D'habitude, il devrait être assez vigilant.
L'as-tu vu dernièrement?
Elle Bonardel, non. Il est peut-être en vacances, là, je sais pas.
C'est à Trois-Rivières, ce qui s'est passé aussi, c'était particulier. Je parle pas des inondations hier sur la rue des Récollets. Il y a une autre affaire qui s'est passée. C'est un incendie à l'usine Somavrac. J'en parle parce que pendant plusieurs heures, il y a eu des résidents qui ont été confinés à l'intérieur, pas à cause de la COVID-19. Là. Ils ont été confinés à l'intérieur de leur résidence. 2000 adresses des secteurs de Trois-Rivières et 4 de la Madeleine qui ont dû fermer les portes, fermer les fenêtres et ne pas sortir de la maison parce que suite à l'incendie, il y a eu des gaz toxiques libérés dans l'air. C'est notamment de l'hydrosulfite de sodium et on s'inquiétait justement pour la santé des gens. Alors, avis de confinement, mais ça a été levé ce matin. On a réussi à contenir l'incendie, c'est terminé. Mm-hmm. Là. On a éteint tout ça et l'avis de confinement est levé à Trois-Rivières.
Et en rafale, pour conclure, Pascal?
Oui, en rafale, je te cherche.
À Beyrouth, on n'a pas parlé encore?
Ben, Beyrouth, on a parlé ce matin, mais pas avec toi. Alors, c'est sûr qu'il y a l'horreur qui est constatée. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur le web. Mmh. On dit qu'il y a des Canadiens d'origine libanaise qui travaillent maintenant à recueillir des fonds pour les hôpitaux qui soignent des milliers de blessés parce qu'on a dû évacuer des gens des hôpitaux qui ont sauté, là, qui ont été complètement fracassés par les ondes. Et on a besoin d'argent pour les réparer, mais aussi soigner ces gens-là. Il y a le drame, on compte encore 135 morts, mais bien sûr, il y en aura plus. Et c'est quelque chose qui survient durant la pire crise économique financière du Liban depuis des décennies. Alors, c'est pas une situation qui est très agréable en ce moment.
C'est sûr que ça va être complexe. Tout simplement de se sortir du drame, ça veut dire que se sortir du drame, puis je sais qu'hier, on a fait une comparaison qui est pas du tout équitable ou égale, mais avec la tragédie de Lac-Mégantic, souvenez-vous même d'arriver avec un nombre de morts précis. Ça a pris plusieurs jours à Mégantic parce que tu sais il y a du monde qu'on n'a jamais retrouvé là, tellement l'incendie était puissant. Là on parle ici d'une explosion qui est très puissante. Puis tu sais avec les photos qu'on voit avant et après, ceux du journal sont pas concluantes mais il y en a des plus hautes que ça. Mais il y a bien du monde que c'est juste quand on va être certain qu'ils sont disparus qu'on va les mettre dans les morts. Mais c'est pour ça que je pense encore que le bilan va largement augmenter. Alors on verra au cours des prochaines semaines.
J'ai quand même envie de te glisser rapidement cette nouvelle-là.
Oui.
c'est des proxénètes et des clients qui achètent des services sexuels de mineurs qui pourraient bientôt faire face à une plus grande répression. Il y a le député caquiste Yann Lafrenière qui se penche là-dessus, un homme quand même ferré dans le dossier. Et c'est un peu scandalisant ce qui fait comme constat tout ça. On dit qu'au Québec, il y a pas moins de 600 établissements liés à l'industrie du sexe, dont 330 qui sont situés dans la métropole. C'est un problème qui est flagrant. On a fait beaucoup de commentaires, documentaires dans les dernières années pour montrer ça. Et lui, ce qu'il dit, le comparatif qu'il fait, c'est qu'à Montréal, tu peux commander une femme comme tu commandes une pizza, c'est-à-dire qu'on demande les attributs physiques d'une personne, puis on a exactement ce qu'on a demandé. C'est très particulier, mais ce qui est encore plus criant, c'est que il indique à quel point l'industrie cible des enfants. 12 ans, on voit ça fréquemment, des enfants de 12 ans qui se font exploiter sexuellement, puis la moyenne est de 14 à 15 ans.
Ça va faire 20 ans là, qu'il y a eu l'opération Scorpion, là, d'ici quelques années. Puis on l'a toujours dit, les clients, quand est-ce qu'on va arrêter des clients? Dans le cas de Scorpion, il y en avait eu quoi? 10-12 clients qui avaient été arrêtés. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus que ça. Et quand on va agir sur les clients, on va vraiment agir sur la prostitution juvénile.
Il y a une loi qui a été passée, puis sais-tu ce que certaines prostituées disaient? En fait, j'ai fait des entrevues avec certaines, puis ça les a mis beaucoup en danger parce que les clients sont rendus expéditifs. T'sais, c'est jamais tout rose, là. On réussira jamais à éradiquer un problème à 100% avec certaines lois, mais elle, ce qu'elle dit, c'est qu'ils sont tellement expéditifs, ils les amènent dans des endroits sombres, ils les droppent là après, ils les laissent là. Donc, elles sont encore plus en danger depuis le passage de cette loi-là.
Ouais, mais en tout cas, d'intervenir auprès des clients, c'est certain. Si on veut vraiment enrayer un problème, il faut pas simplement. Tu sais, c'est comme la drogue. Si on arrête juste les dealers, puis on n'arrête jamais de clients, ben les clients vont dire ok, on va en trouver un autre dealer. Ils s'attachent pas à ce dealer-là, on va en trouver un autre. Mais si les clients passent dans la même rafle que les vendeurs. Même chose pour la prostitution. Là, on va commencer à enrayer un problème, c'est certain, parce que les gens auront une crainte d'être arrêtés et de voir des problèmes majeurs s'ajouter dans leur vie, outre la consommation ou encore la prostitution. Voilà, c'était le tour, l'essentiel de l'actualité. On fait une courte pause et on parle avec Isabelle Mathieu, notre chroniqueur judiciaire au soleil, dans un instant.
Un segment comme celui-là a demandé beaucoup d'efforts. On va se reposer un peu. Pour le matin, au FM 93.
On vous parle de Cinisco parce que Cinisco est une entreprise familiale. L'entreprise recommandée par tous les grands assureurs. Quand il y a un problème, ils vous disent « Hey, appelle donc Cinisco parce que le travail va être fait professionnel. » Quand le sinistre frappe, là, c'est pas de ta faute. T'as rien à voir là-dedans. Et ce que tu veux, c'est de rétablir exactement le bien que t'avais à ce que c'était avant ce dégât, ce sinistre, cet incendie, ce dégât d'eau. Mais Cinisco va le faire. On va nettoyer, on va effacer toutes les traces du dégât, on va démolir si on doit démolir et on va reconstruire. À travers ça, Cinisco s'agrandit avec la force de l'entreprise, bien sûr. Cinisco a besoin de charpentiers, menuisiers, des gars, des filles qui ont de l'expérience en rénovation résidentielle. On vous demande des cartes de compétences. C'est pour des travaux autant de démolition que de finition. Autonome, capable d'initiative. Les vêtements de travail sont fournis et les avantages de la CCQ sont là. Alors, venez faire un tour, sinisco.com, onglet emploi. On cherche également des techniciens en nettoyage après sinistre. Bonne rémunération, compagnie familiale, fiable. Il y a une ambiance là extraordinaire. J'ai adoré mes visites chez Cinisco. Alors, faites comme moi. Si vous dites, ben, vous êtes en questionnement actuellement, menuisier, charpentier, Cinisco, ça vaut la peine. Et technicien en nettoyage après sinistre, même chose, sinisco.com.